Chapitre 9. Winston était gélatineux de fatigue. Gélatineux était le bon mot. Il lui était venu à l'esprit spontanément. Son corps semblait avoir non seulement la faiblesse d'une gelée, mais sa translucidité. Il estima que s'il levait sa main, il serait capable de voir la lumière à travers elle. Tout le sang et la lymphe avait été drainé de son corps par une énorme débauche de travail, ne laissant qu'une fragile structure de nerfs, d'os et de peau. Toutes ses sensations semblaient être amplifiées. Sa salopette lui faisait mal aux épaules. Le trottoir lui chatouillait les pieds. Même l'ouverture et la fermeture d'une main étaient un effort qui faisait craquer ses articulations. Il avait travaillé plus de 90 heures en 5 jours. Tous les autres du ministère en avaient fait autant. Maintenant tout était fini, et il n'avait littéralement rien à faire, aucun travail du parti de quelque nature que ce soit, jusqu'à demain matin. Il pouvait passer 6 heures dans la cachette et 9 autres dans son propre lit. Lentement, sous le soleil de l'après-midi, il marcha dans une rue miteuse en direction du magasin de M. Charrington, en gardant l'œil ouvert pour les patrouilles, mais irrationnellement convaincu que cet après-midi, il n'y avait aucun danger que quelqu'un interfère avec lui. Le lourd porte-document qu'il transportait heurtait son genou à chaque pas, envoyant une sensation de picotement vers le haut et sur la peau de sa jambe. À l'intérieur, il y avait le livre, qu'il avait maintenant en sa possession depuis 6 jours, et n'avait pas encore ouvert ni même regardé. Le 6e jour de la semaine de la haine, après les processions, les discours, les cris, les chants, les banderoles, les affiches, les films, les effigies de cire, le roulement des tambours et le crissement des trompettes, le piétinement des pieds, le grincement des chenilles des chars, le mugissement des avions de chasse, le grondement des canons, après 6 jours de tout cela, alors que le grand orgasme palpitait vers son point culminant, que la haine générale contre l'Eurasia s'était échauffée et en était arrivée à un délire tel que si la foule avait pu mettre la main sur les 2000 criminels eurasiens qu'on devait pendre en public le dernier jour de la semaine, elle les aurait certainement mis en pièces. À l'instant même où il a été annoncé qu'après tout, l'Océania n'était pas en guerre avec l'Eurasia. L'Océania était en guerre avec l'Estasia. L'Eurasia était une alliée. Bien entendu, il n'était pas admis qu'un quelconque changement eût lieu. On a simplement appris avec une extrême soudaineté et partout à la fois que l'ennemi était l'Estasia et non l'Eurasia. Winston participait à une manifestation sur l'une des places du centre de Londres au moment où cela se produisit. C'était la nuit. Les visages et les bannières rouges étaient éclairés d'un flot de lumière blafarde. Le square était bondé de plusieurs milliers de personnes, dont un groupe d'environ 1 millier d'écoliers revêtus de l'uniforme des espions. Sur une plateforme drapée de rouge, un orateur du parti intérieur, un petit homme maigre, aux longs bras disproportionnés, au crâne large et chauve, sur lequel étaient disséminées quelques rares mèches raides, haranguait la foule. C'était une petite silhouette de baudruche hygiénique, contorsionnée par la haine. Une de ses mains s'agrippait au tube du microphone, tandis que l'autre, énorme et menaçante au bout d'un bras osseux, déchirait l'air au-dessus de sa tête. Sa voix, rendue métallique par les amplificateurs, a exposé un catalogue sans fin d'atrocités, de massacres, de déportations, de pillages, de viols, de tortures de prisonniers, de bombardements de civils, propagande mensongère, agressions injustes, cassées, traitées. Il était presque impossible de l'écouter sans être d'abord convaincu, puis rendu fou. À chaque instant, la fureur de la foule s'est emballée, et la voix du haut-parleur fut noyée par le rugissement d'une bête sauvage qui jaillissait involontairement des milliers de gosiers. Les glapissements les plus sauvages venaient des écoliers. Le discours avait commencé depuis peut-être 20 minutes lorsqu'un messager s'est précipité sur la plateforme et un bout de papier a été glissé dans la main de l'orateur. Il le déroula et le lut sans faire de pause dans son discours. Rien ne changea de sa voix ou de ses gestes ou du contenu de ce qu'il disait, mais les noms, soudain, furent différents. Sans un mot prononcé, une vague de compréhension s'est répandue dans la foule. L'Océanie était en guerre avec l'Estasia. L'instant d'après, il y eut une énorme agitation. Les bannières et les affiches qui décoraient le square tombaient toutes à faux. Presque la moitié d'entre elles montraient des visages de l'ennemi actuel. C'était du sabotage. Les agents de Goldstein étaient passés par là. Il y eut un interlude tumultueux au cours duquel les affiches furent arrachées des murs, les bannières réduites en lambeaux et piétinées. Les espions accomplirent des prodiges d'activité en grimpant jusqu'au faîte des toits pour couper les banderoles qui flottaient sur les cheminées. Mais en 2 ou 3 minutes, tout était terminé. L'orateur, toujours agrippé à son micro, les épaules courbées en avant, sa main libre s'agrippant à l'air, continuait imperturbablement son discours. Une minute de plus, et les sauvages rugissements de rage éclataient à nouveau dans la foule. La haine continuait exactement comme avant, sauf que la cible avait changé. Ce qui impressionna Winston en y repensant, c'est que l'orateur soit passé d'une ligne à l'autre au milieu d'une phrase, non seulement sans pause, mais sans même changer de syntaxe. Mais pour le moment, il avait d'autres choses qui le préoccupaient. C'est au moment du désordre, pendant que les affiches étaient arrachées, qu'un homme dont il n'avait pas vu le visage lui avait tapé sur l'épaule et lui avait dit « Excusez-moi, je crois que vous avez fait tomber votre porte-document. » Il prit le porte-document de façon distraite, sans parler. Il savait qu'il lui faudrait des jours avant qu'il ait l'occasion de regarder à l'intérieur. Dès la fin de la manifestation, il se rendit tout droit au ministère, bien qu'il fût près de 23 heures. L'équipe entière du ministère avait fait comme lui. Les ordres que déjà émettaient les télécrans pour les rappeler à leur poste étaient à peine nécessaires. L'Océanie était en guerre avec l'Estasia. L'Océanie avait toujours été en guerre avec l'Estasia. Une grande partie de la littérature politique depuis 5 ans était maintenant complètement obsolète. Rapports et documents de toutes sortes, journaux, livres, brochures, films, bandes sonores, photographies, tout devait être rectifié à la vitesse de l'éclair. Bien qu'aucune directive n'ait jamais été émise, on savait que les chefs du département avaient l'intention qu'en une semaine, toute référence à la guerre avec l'Eurasia ou l'alliance avec l'Estasia devait disparaître complètement. Le travail était écrasant, d'autant plus que les processus qui l'impliquaient ne pouvaient pas être appelés par leur vrai nom. Tous les membres du service des archives avaient travaillé 18 heures sur 24, avec 2 pauses de 3 heures pour dormir. Des matelas furent montés des caves et étalés dans tous les couloirs. Les repas étaient composés de sandwichs, et du café de la Victoire était apporté sur des chariots roulants par des gens de la cantine. Chaque fois que Winston s'arrêtait pour un de ses tours de sommeil, il tâchait de ne pas laisser de travail en cours sur son bureau. Mais lorsqu'il se traînait, les yeux collants et malades vers sa cabine, c'était pour trouver une autre pluie de cylindres de papier qui recouvrait le bureau comme un monceau de neige et commençait à s'abattre sur le parquet. De sorte que le premier travail consistait toujours à les entasser en une pile assez régulière pour lui donner de l'espace pour travailler. Ce qui était le pire, c'est que le travail n'était pas purement mécanique. Souvent, il suffisait de substituer un nom à un autre, mais tout rapport détaillé des événements exigeait des soins et de l'imagination. Les connaissances géographiques même, nécessaires pour transférer la guerre d'une partie du monde dans une autre, étaient considérables. Au 3e jour, il avait des maux d'yeux insupportables, et il lui fallait essuyer ses verres à chaque instant. C'était comme se battre avec une tâche physique écrasante, quelque chose qu'on aurait le droit de refuser, mais que l'on était néanmoins nerveusement anxieux d'accomplir. Dans la mesure où il eut le temps de s'en souvenir, il ne fut pas troublé par le fait que chaque mot qu'il murmurait au phonoscript, chaque trait de son crayon à encre, était un mensonge délibéré. Il était aussi désireux que toute autre personne du département que la falsification soit parfaite. Le matin du 6e jour, Le jeu des cylindres ralentit. Pendant une demi-heure, rien n'est sorti du tube. Puis un autre cylindre. Puis plus rien. Partout, à peu près au même moment, le travail se relâchait. Un soupir profond, pour ainsi dire secret, traversa le département. Un acte puissant qui ne pourra jamais être mentionné avait été réalisé. Il était désormais impossible pour tout être humain de prouver par des preuves matérielles que la guerre avec l'Eurasia n'avait jamais eu lieu. À 12 heures, il fut annoncé de façon inattendue que tous les employés du ministère étaient libres jusqu'au lendemain matin. Winston portait encore son porte-document qui contenait le livre. Il était resté entre ses pieds pendant qu'il travaillait et sous son corps pendant qu'il dormait. Il rentra chez lui, se rasa et s'endormit presque dans le bain, bien que l'eau fût à peine plus que tiède. Avec une sorte de grincement voluptueux dans ses articulations, il monta l'escalier au-dessus de la boutique de M. Charrington. Il était fatigué, mais pas plus endormi. Il ouvrit la fenêtre, alluma le petit poêle à huile sale et mit une casserole d'eau pour le café. Julia arriverait bientôt. Entre-temps, il y avait le livre. Il s'assit dans le fauteuil usé et défit les courroies du porte-document. Un lourd volume noir, relié en amateur, sans nom ou titre sur la couverture. L'impression paraissait également légèrement irrégulière. Les pages étaient usées sur les bords et se détachaient facilement, comme si le livre était passé entre plusieurs mains. L'inscription sur la page de garde était « Théorie et pratique du collectivisme oligarchique » par Emmanuel Goldstein. Winston commença à lire. Chapitre 1. L'ignorance, c'est la force. Au cours des époques historiques et probablement depuis la fin de l'âge néolithique, il y eut dans le monde trois classes. La classe supérieure, la classe moyenne, la classe inférieure. Elles ont été subdivisées de beaucoup de façons. Elles ont porté d'innombrables noms différents. La proportion du nombre d'individus que comportait chacune, aussi bien que leur attitude les unes vis-à-vis des autres, ont varié d'âge en âge. Mais la structure essentielle de la société n'a jamais varié. Même après d'énormes poussées et des changements apparemment irrévocables, la même structure s'est toujours rétablie, exactement comme un gyroscope reprend toujours son équilibre, aussi loin qu'on le pousse d'un côté ou de l'autre. Les buts de ces trois groupes sont absolument inconciliables. Winston s'arrêta de lire, principalement pour apprécier le fait qu'il lisait, dans le confort et la sécurité. Il était seul, pas de télécran, pas d'oreille au trou de la serrure, pas d'impulsion nerveuse pour regarder par-dessus son épaule ou couvrir la page avec sa main. L'air doux de l'été passait contre sa joue. De quelque part au loin arrivaient des cris affaiblis d'enfants. Dans la pièce elle-même, il n'y avait pas de bruit, sauf celui des insectes et de l'horloge. Il s'installa plus profondément dans le fauteuil et mit ses pieds sur le garde-feu. C'était la béatitude. C'était l'éternité. Soudain, comme on le fait parfois avec un livre dont on sait qu'on finira par lire et relire chaque mot, il l'ouvrit au hasard et tomba sur le troisième chapitre. Il continua à lire. Chapitre 3. La guerre, c'est la paix. La division du monde en trois grands états principaux est un événement qui pouvait être et, en vérité, était prévu avant le milieu du XXe siècle, avant l'absorption de l'Europe par la Russie et de l'Empire britannique par les États-Unis. Deux des trois puissances actuelles, l'Eurasia et l'Océania, était déjà effectivement constituée. La troisième, l'Estasia, n'émergea comme unité distincte qu'après une autre décennie de lutte confuse. Les frontières entre les trois super-États sont, en quelques endroits, arbitraires. En d'autres, elles varient suivant la fortune de la guerre, mais elles suivent en général les tracés géographiques. L'Eurasia comprend toute la partie nord du continent européen et asiatique, du Portugal au détroit de Bering. L'Océania comprend les Amériques, les îles de l'Atlantique, y compris les îles britanniques, l'Australie et le sud de l'Afrique. L'Eurasie, plus petite que les autres, et avec une frontière occidentale moins nette, comprend la Chine et les contrées méridionales de la Chine, les îles du Japon, et une portion importante mais variable de la Mandchourie, de la Mongolie et du Tibet. Groupés d'une façon ou d'une autre, ces trois super-États sont en guerre d'une façon permanente, depuis 25 ans. La guerre, cependant, n'est plus la lutte désespérée jusqu'à l'anéantissement qu'elle était dans les premières décennies du XXe siècle. C'est une lutte, dont les buts sont limités, entre combattants incapables de se détruire l'un l'autre, qui n'ont pas de raison matérielle de se battre, et ne sont divisés par aucune différence idéologique véritable. Cela ne veut pas dire que la conduite de la guerre ou l'attitude dominante en face d'elle soit moins sanguinaire ou plus chevaleresque. Au contraire, l'hystérie guerrière est continue et universelle dans tous les pays, et le viol, le pillage, le meurtre d'enfants, la mise en esclavage des populations, les représailles contre les prisonniers qui vont même jusqu'à les faire bouillir ou à les enterrer vivants, sont considérés comme normaux. Commis par des partisans et non par l'ennemi, ce sont des actes méritoires. Mais dans un sens matériel, la guerre engage un très petit nombre de gens qui sont surtout des spécialistes, très entraînés, et comparativement causent peu de morts. La lutte, quand il y en a une, a lieu sur les vagues frontières dont l'homme moyen peut seulement deviner l'emplacement, ou autour des forteresses flottantes qui gardent les points stratégiques des routes maritimes. Dans les centres civilisés, la guerre signifie surtout une diminution continuelle des produits de consommation et la chute parfois d'une bombe fusée qui peut causer quelques vingtaines de morts. La guerre a, en fait, changé de caractère. Plus exactement, l'ordre d'importance des raisons pour lesquelles la guerre est engagée a changé. Des motifs qui existaient déjà, mais dans une faible mesure, lors des grandes guerres du début du XXe siècle, sont maintenant devenus essentiels. Ils sont ouvertement reconnus et l'on agit en conséquence d'après eux. Pour comprendre la nature de la présente guerre, car en dépit des regroupements qui se succèdent à peu d'intervalle, c'est toujours la même guerre. On doit réaliser d'abord qu'il est impossible qu'elle soit décisive. Aucun des trois super-États ne pourrait être définitivement conquis, même par les deux autres. Les forces sont trop également partagées, les défenses naturelles trop formidables. L'Eurasie est protégée par ses vastes étendues de terre, l'Océania par la largeur de l'Atlantique et du Pacifique, l'Eurasie par la fécondité et l'habileté de ses habitants. En deuxième lieu, il n'y a plus, au sens matériel, de raison pour se battre. Avec l'établissement des économies intérieures dans lesquelles la production et la consommation sont engrenées l'une dans l'autre, la lutte pour les marchés, qui était l'une des principales causes des guerres antérieures, a disparu. La compétition pour les matières premières n'est plus une question de vie ou de mort. Dans tous les cas, chacun des trois super-États est si vaste qu'il peut obtenir à l'intérieur de ses frontières presque tous les matériaux qui lui sont nécessaires. Pour autant que la guerre est un but directement économique, c'est une guerre engagée pour la puissance de la main-d'œuvre. Entre les frontières des trois super-États, dont aucun ne parvient à le posséder en permanence, s'étend un quadrilatère approximatif dont les sommets sont à Tanger, Brazzaville, Darwin et Hong Kong, et qui contient environ un cinquième de la population du globe. C'est pour la possession de ces régions surpeuplées et du pôle glacé du Nord que les trois puissances sont constamment en guerre. En pratique, aucune puissance ne régit jamais la surface entière de l'espace disputé. Des portions de cette surface changent constamment de main. Et c'est la volonté de s'emparer d'un fragment ou d'un autre de ces pays par une soudaine trahison qui dicte les changements sans fin des groupements. Tous les territoires disputés contiennent des minéraux de valeur et quelques-uns fournissent d'importants produits végétaux comme le caoutchouc, dont il est nécessaire dans les pays les plus froids de faire la synthèse par des méthodes comparativement onéreuses. Mais ils contiennent surtout une réserve inépuisable de main-d'œuvre à bon marché. La puissance qui régit l'Afrique équatoriale, ou les contrées du Moyen-Orient, ou l'Inde du Sud, ou l'archipel indonésien, dispose de vingtaines ou de centaines de millions de coolies qui travaillent durement pour des salaires de famine.